Bonjour tout le monde, j'espère que ça se passe bien pour vous. Vous avez peut-être pas gagné 70 millions, mais c'est pas grave, on est ensemble, c'est ça qui compte. On a beaucoup de choses pour vous aujourd'hui à discuter dans l'actualité. On va revenir justement sur ce gros lot. On va parler avec quelqu'un de l'Auto-Québec là qui va nous expliquer un peu, parce que il y a beaucoup de choses d'inconnues par rapport aux jeunes gagnants. Il semble en fait que ce ne soit pas un seul, mais plusieurs personnes qui vont se partager le 70 millions. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit hein, pour me dire « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, la même personne qui gagne autant. » Il y en a qui ont relevé le jeune âge du gagnant. Tu sais, à n'importe quel âge, ça fait toujours plaisir. Est-ce que effectivement 70 millions au même groupe ou à la même personne, c'est trop? Bien, vous me direz tantôt. On va également revenir sur la mort d'une jeune fille il y a 2 ans. La jeune Athéna Gervais, qui a été intoxiquée par des boissons fortement alcoolisées, très sucrées également. Puis on va se poser la question, quelles leçons on a tirées depuis son décès au moment, puis il n'y a aucun rapport, mais je fais quand même le lien, là, parce que c'était deux jeunes filles qui sont mortes. Je vous parle d'Athéna Gervais, mais ce matin, on est comme profondément troublés par la mort de cette jeune fille, de cette jeune adolescente de 13 ans qu'on a retrouvée avec une balle dans la tête. Sincèrement, pouf! Moi, ça me désole. On va revenir, bien sûr, sur le conflit autochtone à Ganawake. Et ça aussi, ça me désole, je vous avoue. Puis ça me désole d'entendre tout ce qui se dit. Je pourrais vous dire que ça me met un beau fusil, mais je ne veux pas ajouter au discours ambiant. On parle assez d'armes à feu comme ça. Surtout que je trouve assez délicat la déclaration de François Legault hier. Je vous la remets en tête.
Nous autres, on a des renseignements qu'il y a des armes offensives dangereuses, des AK-47 pour les nommer.
Bon, là, extrêmement délicat, je trouve, de parler de AK-47, dire que les Mohawks sont armés, qui ont des armes AK-47 sur le territoire. On parle ici de la réserve Mohawk de Ganawake. Est-ce que c'est bien songé de lancer une telle information au moment où personne ose aller livrer une injonction qui vise à démanteler les barricades à cet endroit? Je vous rappelle que c'est de juridiction des peacekeepers. On a fait des créations qui s'appellent les conseils de bande. On a créé des réserves avec la loi sur les Indiens il y a plusieurs années de ça. Là, il faut vivre avec. Là, ils ont des polices qui ont juridiction sur ce territoire. Et les peacekeepers ont dit hier qu'ils sont les seules habilités, pas la Sûreté du Québec, les seules habilités à intervenir sur ce territoire Mohawk. Ce sont les peacekeepers qui ont clairement dit hier qu'ils n'interviendront pas pour faire appliquer une injonction d'un gouvernement non blanc, non autochtone, un gouvernement de blanc. Alors, sincèrement, moi, ce matin, ça me décourage d'entendre toutes sortes de choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui contribuent à mettre de l'huile sur le feu. Je pense qu'au sein du gouvernement du Québec, il y en a qui auraient besoin d'un petit cours de Mohawk 101 aussi. Puis, sincèrement, dire qu'il y a des armes, des AK-47 là, sur la réserve, c'est comme dire, bien, il y a des Québécois qui seraient en possession d'armes à feu. Bien oui. Il y a bien des chasseurs au Québec. Regardez l'émission Survivaliste. Je regardais ça hier. Ça aussi, c'est inquiétant. Il y a du monde qui sont armés jusqu'aux dents, puis c'est pas ça qu'on pense. Puis dire que des AK-47, c'est des armes de guerre, sincèrement, je trouve qu'on attise les tensions. On fait l'inverse de ce qu'on doit faire. Alors, on va en discuter. D'abord, ma question pour vous ce matin. Est-ce que vous trouvez que c'est approprié de parler d'armes à feu alors qu'on essaie de régler le conflit à Ganawake? On va en discuter tout de suite avec Guy Ryan, qui est un ex-inspecteur au crime organisé au SPVM. Bonjour, Guy.
Bonjour, Isabelle.
Pierre Trudel est chargé de cours à l'UQAM, membre de la chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes. Bonjour, Pierre Trudel.
Bonjour.
À votre réaction à tous les deux, je commence par vous, Pierre.
Écoutez, je suis déçu pour 2 choses. Notre premier ministre est l'ultime responsable de la relation entre nations, de la relation de la nation québécoise avec la nation Mohawk. Et depuis la crise d'Oka, on sait qu'on avait reculé pendant un certain temps. On a avancé beaucoup, mais là, je me demande si on ne va pas reculer avec un tel propos qui sont pour le moins inexacts. Puis moi, vous savez, j'enseigne, je suis prof, comme bien les enseignants, là, il ne va pas nous aider. Le premier ministre aussi, c'est quelqu'un qui est un professeur qui doit expliquer les choses, là. Puis plutôt que dire qu'il y a des AK-47, c'est la raison pour laquelle la Sûreté du Québec ne rentre pas à Ganawake, là, vous l'avez dit, Isabelle, là, il y a d'autres raisons pour lesquelles la Sûreté du Québec ne va pas là. Il y a pas. Donc, je suis déçu à ce sujet-là. Il nous fait reculer, nous, les enseignants, concernant la lutte contre les préjugés, d'associer ces gens-là à des criminels, des gens extrêmement violents. Il y a des AK-47. C'était connu au cas, il y a 30 ans, mais il semble qu'on avait avancé, là. Il va nous faire reculer.
Guy Ryan, là-dessus?
C'est, vous savez, c'est tellement fragile, ces négociations-là, d'établir un dialogue. Et on l'a vu, le premier ministre hier a mentionné ça. Mais en mentionnant ça, on le voit qu'il n'est pas habile avec ces mots-là. Ça lui a été glissé probablement par une information de ses proches, de son bureau. Et là, il a décidé de le dire publiquement.
Est-ce que c'était prévu, ça, d'après vous, Guy Ryan, ou c'est sorti comme ça parce qu'il fallait qu'il donne, il était en point de presse, il fallait qu'il donne une raison pour expliquer pourquoi, ouais, pourquoi la SQ n'intervenait pas? Ça aurait été très simple de dire exactement ce que c'est que la SQ n'a pas d'affaire, là.
Bien, effectivement, effectivement. Puis l'autre chose, c'est d'établir un dialogue. Tout le monde le dit que ce n'est pas une intervention musculaire ou forcée. On l'a vu à Belleville, en Ontario. Et là, le premier ministre mentionne ça. Il n'est pas habile avec ces mots-là. C'est pas à lui à indiquer ça. Lui, il est là pour justement faire le lien, comme le professeur l'a mentionné, l'avocat l'a dit, M. Pierre. Il dit d'établir un dialogue, d'établir un contact particulier avec ces gens-là. Mais je trouve que du côté... Il ne faut pas avoir de provocation dans ça. Il y a de la provocation, autant des deux côtés, autant de ce côté-ci, par des paroles échangées, parce qu'on a de la difficulté à trouver un bon interlocuteur. On n'a jamais le bon interlocuteur du côté des Autochtones. On a un qui se présente à la caméra, on ne sait pas d'où il vient. Là, il se dit secrétaire, puis après ça, on initie un autre qui décide de venir. Il est accompagné de quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Mm-hmm. C'est ça qui est difficile, d'établir un bon dialogue avec les bonnes personnes.
Mais parce qu'on ne les connaît pas aussi, Guy. Pendant 30 ans, il est arrivé la crise d'Oka il y a 30 ans. Puis là, on se rend compte en ce moment qu'on n'a pas appris grand-chose, visiblement.
Et définitivement, de parler d'armes à feu, c'est très, très, très fragile.
Voilà. Pierre Trudel, c'est vrai qu'on fait face aujourd'hui à une crise qui peut s'éterniser parce qu'on a fait semblant pendant des années que les Autochtones y allaient se contenter de nos plates excuses puis de nos larmes de crocodile, en tout cas celles de Justin Trudeau. Mais dans le fond, là, est-ce qu'on les considère comme des habitants, des résidents d'un territoire qu'on partage ou qu'on fait semblant qu'ils ne sont pas là? Moi, j'ai l'impression que c'est plus la deuxième.
Oui, c'est important, moi, comme enseignant, là, de relever, puis M. Ryan l'a fait, là, de relever cette information-là qui n'est pas présente dans les propos de notre premier ministre, malheureusement, là, qui nous représente toutes, là. C'est qu'il y a des ententes trilatérales concernant les autorités policières.
Excusez-moi, Pierre, vous parlez de Legault, le François Legault, ou vous parlez de Justin Trudeau? François Legault, OK, au Québec, d'accord.
Je trouve important de relever une information concernant la sécurité publique à Kanawagé. Les forces policières de Kanawagé, qu'on appelle les peacekeepers, les gardiens de la paix, là, c'est les premiers policiers indépendants. On parle de décolonisation, c'est bien quelque chose d'important, c'est que les nations aient leurs propres forces de police, là. Alors, ils l'ont réalisé longtemps. Ils ont des ententes trilatérales financées par le Québec et Ottawa. Ils ont des rapports très professionnels avec la Sûreté du Québec et cordial, et ça va très bien, à mon avis. Le conseil de bande a pris une position, je veux dire, il y a coalition présentement, là, les autorités politiques, les autorités policières, les maisons longues, il y a des manifestants et ils ont l'appui important de la population, fort probablement. Et là, ce que M. Legault laisse entendre, c'est que s'il n'y avait pas de cas 47, les policiers de la Sûreté du Québec iraient arrêter des policiers... les gardiens de la paix de Kanawagé, ça n'a aucun sens. Là, ils vont se confronter à d'autres policiers armés. Alors, la réalité, c'est que l'entente trilatérale prévoit, là, j'ai appris ça dans le devoir, là, moi, je suis pas expert là-dedans, là, que oui, la Sûreté du Québec pourrait rentrer, malgré le fait qu'il n'y a pas de demande d'assistance, que si la vie humaine est en danger. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Squassassiné, il y a 30 ans, où le chef téléphonait à la Sûreté du Québec pour demander que la Sûreté du Québec vienne assurer la paix parce qu'il y avait deux groupes concernant les casinos qui se tiraient dessus. Il y a eu deux morts et il semblerait qu'on a trop tardé à ce moment-là pour intervenir. Il y a eu une intervention massive des state troopers, des policiers de l'Ontario et de la Sûreté du Québec pour rétablir la paix parce que la vie humaine est en danger. M. Legault, c'est un professeur, là, il doit expliquer ça, les raisons, les circonstances qui font que la Sûreté du Québec pourrait rentrer.
Mais c'est pour ça, Pierre, que je dis ce matin, c'est important de rétablir les faits, de bien expliquer ça. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un cours de Mohawk 101 puis de Autochtone 101 parce que, et c'est ça qui est dommage. Je trouve qu'en 30 ans, on aurait dû faire nos devoirs. Et c'est inadmissible qu'au sein même du gouvernement, il y ait personne qui fasse le point avec le premier ministre du Québec.
Moi, je vous dirais une chose. Je vous dirais une chose, puis j'aborde dans le sens de M. Trudel. Il restera quand même que tout le monde dit qu'il y a déjà des bons dialogues qui se font. Ils disent qu'ils sont toujours en contact avec eux, mais on ne le voit pas. Et quand il arrive des situations comme ça, on dirait qu'on recule, puis là, personne ne se parle. Parce que j'écoutais Yann Lafrenière, qui est quand même au gouvernement également, et il disait, oh oui, on a des contacts journaliers avec eux, hebdomadairement avec eux, pour éviter qu'il y ait une crise. Mais on arrive toujours au bout du tunnel, puis on est toujours en crise, on est toujours en barricade, on est toujours en confrontation. Il ne faut pas l'animer, il ne faut pas l'alimenter, il ne faut pas que ça l'explose. Et je l'écoutais un interlocuteur, il disait, il y a comme deux barrages. Le premier barrage est très pacifique. Le deuxième, c'est là que les groupes radicaux sont. Et ça a un élément de dangerosité supplémentaire. Mais on n'est pas à la confrontation avec les armes à feu. On n'est pas en confrontation où on se fait attendre avec, comme ça a été le cas en 90, malgré le fait que personne n'était prêt à ça. Je pense que les gens du renseignement ont de l'information, le divulguent au premier ministre, mais le premier ministre doit faire la part des choses et ne pas alimenter pour avoir un conflit armé.
Il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. On va vous donner la parole tout de suite après. Je vous rappelle qu'on parle donc de ce conflit entre les Autochtones, les barrages qui sont un peu ici et là. Bien sûr, il faut quand même se souvenir que tout ça, c'est partie de la communauté britanno-colombienne, British Columbia, Colombie-Britannique, de Wet'suwet'en. Et là-bas, bon, c'est à la base un problème de gazoduc, le fameux Coastal GasLink, sur le territoire autochtone là-bas, en Colombie-Britannique, et que les Mohawks de Ganawake soutiennent donc cette lutte qui est menée par les Wet'suwet'en. C'est ça à la base, hein, c'est pour cette raison-là. Après, est-ce que ça a pris d'autres proportions? Et des fois, je me dis, la meilleure façon de comprendre de ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, c'est de se mettre à sa place. Moi, si j'étais Mohawk, si vous l'étiez, je pense qu'on ferait peut-être comme eux. Peut-être qu'on profiterait du moment pour rappeler qu'on existe, puis pour revendiquer ce qu'on prétend qu'on nous a concédé depuis longtemps, mais qu'on nous concède finalement jamais. Tu sais, les Autochtones, on s'entend qu'ils ne nous dérangent pas. Sauf à partir du moment où ils font une barricade, puis là, on se dit, ben voyons, qu'est-ce qu'ils veulent? À qui on parle? Ils parlent de quoi? Voyons donc! Il faut se regarder aussi, là. Il faut se regarder. C'est un peu ça que j'aimerais qu'on fasse un peu ce matin. On va vous donner la parole, 514-790-9850. Dites-moi si vous trouvez approprié de parler d'armes à feu pour essayer de régler ce conflit, entre autres à Ganawake. À tout de suite, tout le monde. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est bien approprié de parler d'armes à feu, en particulier de AK-47, pour essayer là, d'expliquer pourquoi on n'intervient pas, entre autres, sur la barricade de Ganawake? Ma question est pour vous. Entre autres, Luc, ce matin, vous en pensez quoi?
Moi, je suis absolument d'accord qu'on sache qui sont armés comme ça. Je veux dire, si j'ai quelqu'un à confronter, j'ai intérêt à connaître mon adversaire. Là. Mm-hmm. J'aime mieux savoir qu'ils ont des AK-47 que savoir qu'ils ont des fusées à plomb. Mm-hmm. Puis je vais vous dire qu'AK-47...
Mais avez-vous compris, vous, Luc, que les AK-47 étaient sur la barricade détenus par les Mohawks qui étaient là?
Non. Je trouve que c'est comme juste un warning, si vous excusez l'anglicisme.
Ouais.
C'est un warning d'aviser nos gens. Écoutez, là, vous vous battez pas comme des enfants d'école. Là. Je vais vous dire une chose, AK-47, là, c'est rien à comparer à ce qu'ils ont. Hein. Je vais vous dire, moi, que s'il y a une confrontation violente qui arrive, c'est pas la police que ça va prendre, ça va être l'armée, je vous dis. C'est bien plus fort que qu'est-ce qu'on peut penser, là. Puis moi, comme je vous dis, je suis policier, puis je sais que t'as le bord de la porte, la personne a un fusée à plomb, ou il y a un fusée à un AK-47, ces choses-là, je peux savoir qu'est-ce qui est équipé, mon
Vous, vous êtes policier, Luc?
Non, je ne suis pas. Mais si je l'étais, je veux dire, je voudrais absolument savoir qu'est-ce que mon adversaire, à même titre que deux boxeurs dans une arène, t'as intérêt à connaître la force de ton rival. Mm-hmm.
Merci.
Je veux dire, moi, mais je trouve que tout le monde en veut à M. Legault pour ça, je comprends pas. Mm-hmm. Je veux dire, je suis d'accord avec ça, moi. Je veux savoir mon adversaire, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Mm-hmm. Je veux pas, je m'en irai pas à clôture à savoir s'il est armé ou non. C'est complètement différent, là. Mm.
Mais pensez-vous vraiment que les Mohawks vont tirer sur des Blancs? Là. C'est ça que ça sous-entend.
Non. Ils vont vous dire une chose, malheureusement, mais il y en a beaucoup, sans trop généraliser, mais il y en a beaucoup qui n'ont rien à perdre là-dedans. Je vous dis, ce n'est pas des enfants d'école à qui on a affaire, là. Ça va se régler avec un montant d'argent. On est au courant de ça. Ça fait que des terres en quelque part. Là. Ça va lui donner de l'argent davantage, c'est
Merci.
Tout. Là.
Merci beaucoup, Luc. Charles est avec nous. Bonjour, Charles. Votre opinion est-elle comme celle de Luc? Vous partagez son point de vue?
Non, je suis totalement en désaccord, en fait, avec l'opinion de Luc. Là, puis je pense que c'est exactement le contraire de mon opinion. Parce que je pense que M. Legault, en faisant ce genre de commentaires, ça nourrit l'ignorance. Puis l'ignorance mène à la peur, comme que monsieur avant moi a peur des Mohawks. Mais je pense que c'est au contraire, il faut plus d'interventions comme que vous êtes en train de faire aujourd'hui, en invitant deux invités de qualité qui connaissent le sujet en profondeur, pas comme monsieur Legault, qui clairement connaît pas ce sujet-là, qui permettent d'informer les gens, comme que monsieur a raison de dire que c'est important de connaître la situation, puis d'être informé par rapport à ça, mais cette information-là, pour que ce soit la bonne, qu'il soit communiquée, et non simplement basée sur des préjugés, des stéréotypes qui sont communiqués ouvertement par le premier ministre et par nombre de médias autres que vous aujourd'hui.
Merci beaucoup, Charles. Marc-André, votre opinion là-dessus? Est-ce que vous trouvez que c'est approprié de parler d'armes à feu en ce moment, là, à ce moment-ci de la discussion? Parce qu'on nous dit qu'il y a des discussions qui ont cours. Peut-être qu'elles vont pas assez vite à notre goût. Il faut comprendre qu'on n'a pas la même culture ici, là. Hein? Vous voyez ça comment, vous, Marc-André? Trouvez-vous que François Legault a raison ou il a tort?
Dans un sens, moi, je pense qu'il a raison, un peu comme le premier auditeur.
Mm-hmm.
Il y a un gouvernement qui est en place. Ils savent pas ce que les Mohawks ont de leur côté, ce qui se passe, parce que, bon, aucune interaction avec les médias, ci et ça. Donc, ils ont besoin de savoir à qui j'ai affaire. Donc, en tant que gouvernement, d'après moi, ils ont lancé cette information-là tout bonnement, comme ça, pour savoir, justement, pour faire réagir les Mohawks, puis que les Mohawks nous disent qu'est-ce qui se passe de leur côté. Je pense que c'était seulement une simple mauvaise information, puis essayer de faire paraître mal les Mohawks aussi. Tu sais, le gouvernement du Canada, ils en ont des armes, eux autres aussi. Ils ont leur armée, ils ont leur police, puis bon, écoutez, c'est comme ça. Mais là, on est en train de faire des discussions avec des Mohawks, puis du gouvernement. Tout ça, pourquoi? Pour une guerre de terrain? Puis, écoutez, je trouve que c'est rendu vraiment ridicule ce que ça en est rendu, là.
Merci, Marc-André. Paul, votre opinion là-dessus?
Oui, bonjour. J'écoutais Yann Lafrenière matin qui disait jamais François Legault a dit qu'il y avait des AK-47 au barricade.
Non, il a dit...
Lâchez-moi ça. J'écoutais Radio-Canada, puis il a déclenché la guerre. Hey!
Ah, ils ont dit ça à Radio-Canada?
Ben...
Vous avez compris ça!
Écoutez un peu, là. On déforme ses paroles, puis lui, il se tient debout, contrairement au mollasson qui est à Ottawa, là, avec sa boîte de clinique qui se promène. Lui, il est responsable. Il récolte ce qu'il a semé. C'est pas un conservateur, là. Ça fait 5 ans qu'il est là, le mollasson à Ottawa. Puis là, chez moi, François Legault, lui, il dit la vérité.
Mm-hmm.
Il se tient debout, puis c'est un premier ministre. Il n'a pas à Ottawa de premier ministre. Mm-hmm. C'est un mollasson.
Mm-hmm. Mais là, vous merci. Ben merci beaucoup. On a Benoît avec nous. Benoît, votre opinion là-dessus?
Oui, bonjour. Moi, je pense que c'est pas. Bonjour. Je pense que c'est pas approprié de commencer à parler d'armes à feu au niveau des barricades, parce que si on se souvient en 90 à Oka, tout le monde était armé, puis ça avait dégénéré aussi à un moment donné. Mais moi, le fond de tout ça, je me demande. Quand tu vas sur les territoires autochtones, c'est leur loi, ils ont leur police, ils ont tout, puis s'ils ont des armes, c'est leur affaire, ils sont chez eux, mais je veux dire, de manifester puis de faire des barricades sur les terrains privés du chemin de fer, je pense que ça n'a pas d'affaire là. Ils auraient dû plutôt se mettre devant le gazoduc puis essayer de négocier entre adultes consentants, responsables, intelligents, puis pendant ce temps-là, tu démantèles les barricades, parce qu'en bout de ligne, c'est l'économie qui est touchée partout. Qui va payer ça?
Mm-hmm.
Sûrement que les chemins de fer vont demander des compensations au gouvernement. Puis si vous puis moi, le gouvernement, en bout de ligne, on va tout le temps payer pour ça. Alors, négocier de bonne foi, libérer les voies ferrées, faites rouler l'économie, et puis ça n'a pas d'affaire des armes à feu, là, pas plus que ça avait d'affaire en 90. Moi, je pense que de le dire, oui, il y avait un petit peu peur, puis il voulait jeter un petit peu d'huile sur le feu. En même temps, il voulait prévenir que si on envoie la SQ, ça peut dégénérer. Mais je pense que ça n'a pas d'affaire, là.
Mm-hmm. Merci, Benoît. Olivier, bonjour.
Oui, bonjour, Isabelle, ça va bien?
Oui, on vous écoute sur cette question, donc.
Mon opinion, c'est que la veille, il y avait M. Blanchette qui encourageait M. Trudeau à aller vers la Colombie-Britannique pour négocier.
Oui, le chef du bloc,
moi,
ouais.
Moi, j'ai entendu, la déclaration de M. Legault plus comme un appel au gouvernement ou de donner un niveau de gravité à l'événement. Et donc, en appeler au fédéral à agir plutôt que lui-même.
Mm-hmm. En même temps, en regardant ça, je me disais, on est en train, c'est fou, on est en train carrément, ça c'est clair que ça nuit tellement au gouvernement de Justin Trudeau que je sais pas ce qui va rester de son gouvernement libéral après qu'on sera sorti de cette crise. Et je trouve qu'on est en train de s'arranger. Je pense que c'est Pierre Trudel, mon invité l'autre jour, qui disait ça, qu'on est en train de s'arranger pour élire le prochain gouvernement conservateur, n'est-ce pas, Pierre Trudel?
C'est sûr qu'il y a, une certaine crise qui se passe, il y a un rapport de force qui se fait, là. Et il y a de la politique qui se fait dans ce rapport de force-là. On sait qu'au cœur du rapport de force, c'est le temps et les moyens de pression. C'est comme une grève ou quelque chose comme ça. Là, on connaît pas tout qu'est-ce qui va résulter de ça. Mm-hmm. Mais effectivement, il pourrait avoir un ressac dans l'opinion publique contre les Autochtones. Puis aussi, on sait que l'opposition est, disons, moins sensible aux questions autochtones. Ça, c'est un peu étrange là-dedans parce que l'enjeu, c'est pas que les Autochtones veulent de l'argent, là, hein. C'est vraiment autre chose. Monsieur Legault, ici au Québec, il fait la promotion du fait qu'il devrait y avoir des paix des braves chez toutes les nations autochtones, pas juste avec les CRI où ça va très bien, là. Mais c'est ça le fond du problème en Colombie-Britannique. Il n'y a pas de paix des braves avec les Wet'suwet'en. La Cour suprême a reconnu qu'il y avait, comme les CRI, comme les Atikamekw, comme les Innus, qu'il y avait un titre, un intérêt important des Autochtones dans un territoire et qu'il devait y avoir un traité. Alors, il n'y a pas de traité, il n'y a pas de paix des braves. Donc, M. Legault devrait peut-être davantage relever ça que, qu'il devrait avoir des paix des braves en Colombie-Britannique comme il y en a au Québec. Mm-hmm. Plutôt que, c'est pas une question d'argent, là. C'est un gros préjugé, ça, que les Autochtones coûtent cher et la démesure, vous savez, là, ils ont pris le pont, ils vont prendre l'île de Montréal, là, etc., etc. Là, c'est, nous, les enseignants, on connaît ça, là. Hein.
Ouais, justement. En même temps, je tiens à rappeler pour tous ceux qui disent vous avez invité un enseignant, on sait bien qu'ils sont contre le gouvernement Legault. Je tiens à rappeler vos lettres de noblesse. Pierre Trudel, vous connaissez bien le dossier autochtone, hein, je pense que c'est important de le préciser.
Ben, en tout cas, j'ai suivi ça depuis la crise d'Oka. D'ailleurs, vous savez, on fait des références avec les images de guerre de la crise d'Oka, mais on sait que ça a duré longtemps, les négociations aussi, là. Oui. Il faut dire qu'il y avait une crise sociale chez les Mohawks à ce moment-là et qu'il y a eu une intervention inappropriée de la Sûreté du Québec. Et ces deux, ce mélange des deux choses-là, ça fait que chez les Mohawks, on avait vu à quoi ça se met 2 mois avant la crise d'Oka, qu'il y avait un usage d'armes à feu pour des questions politiques. Aujourd'hui, il n'est pas question de ça, là. Les Mohawks, c'est clair que ils veulent avoir une résolution pacifique de ce conflit-là. Et les policiers ont le rapport Gilbert en main, puis ils le regardent attentivement, le rapport sur la mort du caporal Lemay, ouais. Et ils le mettent en œuvre. Puis, manifestement, M. Legault dit quelque chose d'inapproprié là, à partir de discussions avec la Sûreté du Québec, j'imagine. Là.
On va s'arrêter ici. Très courte pause. On revient avec les commentaires de nos auditeurs également. Vous pouvez nous joindre de l'extérieur de la grande région de Montréal en faisant le 1-866-790-9850. Et dans la région, vous faites le 514-790-9850. Alors, on réagit bien sûr avec vous tous ensemble ce matin à ce qui s'est passé hier en point de presse. François Legault, premier ministre du Québec, a dit que on lui avait fait part du fait que des AK-47, des armes d'assaut, étaient sur le territoire de Ganawake. Pas sur la barricade, c'est important de le préciser, là. Hier, c'était peut-être un peu plus flou dans la façon dont il l'a dit, mais c'est clair que il y en a sur le territoire parce qu'il y en a depuis des années. C'est comme ça. Au même titre où il y a des Québécois qui ont des armes chez eux, là, pour toutes sortes de raisons. Est-ce que c'est approprié de parler d'armes à feu en ce moment devant les médias pour attiser un peu? Puis je vous entends ce matin, là, puis vous êtes beaucoup, très nombreux, à être d'accord avec le premier ministre du Québec à dire que vous vouliez le savoir s'il y a des armes, aussi bien être prêt quand ils vont attaquer. On n'est pas devant un affrontement, j'espère. En tout cas, Guy Ryan est un ex-SPVM, inspecteur au crime organisé. Guy, rassure-nous là-dessus.
Non, mais je vais vous dire, on va se croiser les doigts. Il est supposé avoir une rencontre aujourd'hui entre les chefs héréditaires et le gouvernement fédéral. Je pense que ça prend du leadership, là. Il faut mettre le pied à terre. On l'a lu encore tantôt. On demande à la GRC de se retirer. Le gouvernement ne lui donne pas le feu vert de se retirer en Colombie-Britannique. Mais s'il faut que la GRC se retire, parce que d'une façon ou d'une autre, ils sont là, puis il y a des barrages pareils, qui se retirent momentanément, puis qu'on puisse entamer une discussion qui est valable, qui est durable, puis qu'on arrive avec un traité par la suite. On n'aura pas besoin d'avoir d'injonction. Là, si tout le monde lève les barricades parce que la GRC sortit de la Colombie-Britannique, pour qu'on puisse échanger avec les vrais décideurs autochtones, puis qu'on mette de quoi sur la table, là. Parce que me semble qu'à un moment donné, là, on dévie. Là, on s'en va pratiquement dans l'affrontement. On veut faire venir l'armée. Voyons, il y a des limites, là. Je pense qu'il faut entamer un dialogue franc avec ces gens-là, avec des interlocuteurs qui ont le vrai message, parce que vous savez, des fois, ils viennent comme interlocuteurs, par la suite, ils retournent au conseil de bande, puis ils reviennent avec un message différent. Il faut que ça soit clair, là. Si on entend des discussions, un bon dialogue, puis ça prend du leadership du gouvernement fédéral, parce qu'on se lance la balle, là.
Et t'as raison, Guy, de dire que ça vient du fédéral, qu'il faut laisser, même si on doute là, de leurs actions, il faut quand même laisser les libéraux intervenir, avoir les discussions qu'ils ont. Peut-être c'est long, puis c'est vrai que ça a des répercussions sur l'économie, mais je pense que c'est la meilleure façon de faire. Et on s'en parlait de la GRC. Il y a 7 jours, jour pour jour aujourd'hui, là. C'était le 15e jour, là. On est 22e jour. La GRC avait offert de se retirer du territoire Wet'suwet'en. Et Justin Trudeau avait dit « Je prends note de cette offre ». Mais là, il faut le faire. Il faut enlever la GRC de ce territoire. Parce qu'une fois qu'il n'y aura plus de GRC à Wet'suwet'en, les porte-paroles, les chefs héréditaires n'auront pas trop le choix vraiment de s'asseoir. Et là, à Ganawake, c'est là que ça va se rendre jusqu'à nous. À Ganawake, ils pourront pas tenir la barricade. Si à l'autre bout du pays, ils la lèvent. Tu comprends? Là, ils seraient de mauvaise foi. Fait qu'il y a comme une espèce il y a comme une chaîne ici de décisions qu'il faut respecter. On a Gilbert avec nous. Comment voyez ça, vous, Gilbert?
Bonjour, Mme Maréchal. Que je vous aime.
Ah, ben, vous êtes bien fin.
Vous avez dit les bonnes choses. Tout le monde panique, tout le monde vaut 90. Avec M. Fabi, on attendait des auditeurs parler de 500 ans en arrière. C'est pas ça la cause. C'est qu'ils ont pas d'eau potable. Ça, c'est au point de départ. Il y a beaucoup de... Ils ont pas d'école. Les enfants manquent d'éducation. Les Indiens veulent que les enfants aient de l'éducation. Ils manquent d'école. Il y a eu des ententes qui n'ont pas été tenues d'un gouvernement à l'autre. Ils sont rendus écœurés de faire rire d'eux. On s'entend-tu? Les Mohawks, ici, au point de départ, ils l'ont dit. On est là en guise de solidarité. Mm-hmm. Si on est solidaire avec quelqu'un, est-ce qu'on va l'abandonner à un moment donné? Non, je crois pas.
Merci.
Alors, c'est ça qu'ils font. Lorsque la GRC vont réellement se retirer, les négociations vont commencer. Je sais un petit peu de quoi je parle. Je suis métisse.
Ah oui? OK. Merci.
Et lorsque la GRC vraiment va se retirer, pas seulement que se tasser de quelques mètres, non, se retirer vraiment, de montrer vraiment une belle image, là, de se retirer, à ce moment-là, les négociations vont commencer. Est-ce que les gens de là-bas, est-ce qu'ils peuvent avoir de l'eau potable? Ici, il y a eu le déluge qu'il y a eu à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Regardez toute l'ampleur que ça lui a pris. Les autres, ça fait des années qu'ils n'ont pas d'eau potable.
Merci, Gilbert. Il y a beaucoup de gens, toutes nos lignes sont pleines. Je vais parler à Guy maintenant. Bonjour, Guy.
Oui, bonjour. Écoute, j'aime bien ton intervention ce matin, première des choses.
Merci.
Je suis complètement en désaccord avec ce que le premier ministre a fait hier. C'est tout à fait alarmiste. Ça sème la cohue. Écoute, ça incite les gens à croire que les barricades sont armées, puis c'est pas le cas. Mm-hmm. Je comprends bien que la police ait besoin de le savoir si jamais il y aurait une intervention, mais il n'y a aucune nécessité pour la SQ d'intervenir à ce moment-ci. Les Autochtones ont pleinement le droit de manifester leur support à la Colombie-Britannique. Écoute, il y a des situations que ça fait 400 ans, plus de 400 ans, qui sont laissés sans aucune réponse, des traités qui sont brisés, qui sont signés, non pas respectés. Ces gens-là, on commence à en avoir le plein de bol, puis ils ont le droit de manifester. Mm. Ils le font en paix à ce moment-ci, mais il ne faut pas provoquer des choses parce qu'il n'y a pas d'armes à ce moment-ci. Donc, ils manifestent de façon à se faire entendre. Je comprends que ça peut être dérangeant. On s'entend quand quelqu'un fait la grève, que ce soit les trains qui l'ont fait récemment ou les transporteurs, ça dérange, mais c'est la seule manière de se faire entendre quasiment.
Mmh, exactement. Merci.
Je comprends que des armes, on s'entend, il y en a partout en province. Ça ne veut pas dire que la SQ interviendra pas. Mmh.
Merci beaucoup. Ouais, puis de là à dire éventuellement ce sera l'armée, je pense que là, il faut vraiment, vraiment calmer le jeu. Là. Claude, votre opinion là-dessus, est-ce que c'est une bonne idée de parler d'armes à feu? On est à la journée 22 là, de ce conflit.
Je pense que c'est une bonne idée d'informer la population, mais c'est le devoir du premier ministre. Deux, le premier ministre n'a jamais dit que les armes étaient sur la barricade. Ce qui crée la confusion, c'est le chef qui dit « Non, 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 il n'y a pas d'AK-47 sur les barricades. Ben non, mais ils sont dans le village. » Tout le problème avec les Mohawks et généralement avec les Amérindiens, sauf les gens comme les Cris qui ont négocié puis qui ont fait de belles ententes puis qui vivent beaucoup plus à l'aise que les autres, c'est la vérité. On réclame des territoires Mohawks à Montréal quand les Mohawks viennent d'Albany puis Rochester à l'État de New York. Sur quelle base ils prétendent ça? Tous les historiens, lisez les articles, tous les historiens au Canada disent que c'est faux, sauf quelques membres de la communauté Mohawk qui prétendent qu'il y a des traditions. Sans vérité, il n'y aura jamais de réconciliation. On vient d'entendre qu'il n'y a pas d'eau dans toutes les réserves au Canada. Mmh. Voyons donc.
Savez-vous pourquoi le gouvernement Legault, comme les autres précédemment, Bernard Landry à l'époque, ont négocié avec les Cris? Ils n'ont pas le choix. Mais ici, dans la région de Montréal, les gouvernements vont vous dire qu'est-ce qu'on aura à négocier? Qu'on a à négocier avec Ganawake, avec Akwesasne?
Pourquoi dites-vous que nos politiciens ont fait ça parce qu'ils n'avaient pas le choix? Voici des grands.
Parce qu'ils sont sur un territoire qu'on veut exploiter pour ses ressources naturelles.
Pardon, madame, ils ont collaboré pour développer ensemble.
Oui.
Vous devriez voir l'impact que ça a sur le territoire Cri.
Tout à fait, ben oui. Et c'est alors, très bon, c'est un win-win, comme on dit. C'est bon et pour le Québec et c'est bon pour la nation Cri. Mais ce que je vous dis juste, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'on a le même intérêt à négocier avec les Autochtones qui nous entourent, qui sont plus près de nous, parce qu'on n'a pas l'impression que ça va être un win-win pour nous. On a l'impression qu'on va être obligé de laisser aller du territoire. Fait que ça fait pas notre affaire. C'est juste ça que je dis.
Madame, vous faites un procès d'intention, mais parlons de vérité. Mm-hmm. Madame Plante qui dit que Montréal est sur le territoire Mohawk non cédé. Totalement faux. Tous les historiens écrivent constamment qu'il n'y a aucun lien entre les Iroquois qui étaient dans la vallée du Saint-Laurent et les Mohawks qui étaient dans la région d'Albany. Alors, sur quelle base, j'aimerais ça que quelqu'un réponde à ça, sur quelle base peuvent-ils prétendre qu'il s'agit de territoires ancestraux?
Mm-hmm. C'est intéressant. Ben, tiens, justement, on a Pierre Trudel qui est avec nous. On va aller après la pause, bien sûr. C'est intéressant, ça. On va voir ce que Pierre Trudel, quand même chargé de cours à l'UQAM, membre de la chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes, qui s'est intéressé justement à toute la question des traités, des territoires cédés, non cédés. Est-ce qu'il va pouvoir nous dire là-dessus? Puis, bien sûr, vous aurez encore quelques minutes pour intervenir et nous donner votre opinion là-dessus. Si c'est approprié à ce moment-ci de la partie de parler d'armes à feu pour essayer de tenter de régler ce conflit à Ganawake. À tout de suite, tout le monde. Est-ce que c'est approprié que le premier ministre du Québec parle d'armes à feu pour essayer d'expliquer pourquoi la SQ intervient pas, entre autres, à Ganawake, qui est un territoire Mohawk en banlieue de Montréal? Richard, vous en pensez quoi, vous?
Mais moi, ce que j'en pense, c'est que c'est pas nécessairement sur la déclaration du premier ministre, mais c'est plutôt au niveau de notre tolérance vis-à-vis de tous ces événements-là.
Mm-hmm.
Je me demandais si on était aux États-Unis, si un groupe d'Autochtones essaierait d'arrêter les trains, de faire une manifestation comme on fait au Canada, ça durerait combien de temps la tolérance aux États-Unis? Sauf qu'ici, on est très tolérant, on devrait réagir plus vite et ne pas laisser les choses aller.
Ouais.
D'autre côté, c'est quand on parle depuis tout à l'heure des gens qui manquent d'eau dans les réserves. Pour moi, je me souviens d'un monsieur Harper qui avait dit, ben moi, je vous donne des aides aux communautés. Je veux avoir maintenant un rapport. Je veux avoir qu'est-ce que vous faites de justifier les argent qu'on vous transfère pour vous aider.
Tout à fait.
Parce
ben
que
ouais.
Je crois qu'il y a des communautés qui sont quand même assez prospères au Canada, puis il y en a d'autres qui ne lâchent.
Oui.
Mais comment est géré l'argent? Et quand M. Trudeau a été élu, ben, la première chose qu'il a fait, il a dit, ben, moi, vous ferez bien qu'est-ce que vous voulez avec les aides qu'on vous fait.
Oui.
Donc, c'est un peu là.
Et moi, ça aussi, c'est une question délicate. Ça aussi, c'est une question délicate. Toute la gestion.
Oui, la gestion de l'argent.
Oui, exactement. Mais vous avez raison de dire, puis c'est ce que beaucoup de Québécois disent. Voyons, on leur donne tellement d'argent, ils se plaignent tout le temps, il faut toujours leur en donner plus. Mais c'est aussi difficile de dire à quelqu'un comment il doit gérer son argent.
Ben moi, j'ai été mon année dans la réserve SCP, là, puis les gens, les Autochtones étaient heureux, ils disaient, écoute, on est un beau groupe ici, on a bien géré notre argent, on a fait un développement touristique, on a fait de la foresterie, puis tu sais, il y en a qui ont réussi, les communautés. Ouais. L'autre point que je voulais vous dire, c'est, moi, si la majorité des groupes autochtones à travers le Canada étaient contre ce développement-là, de ce réseau, ce nouveau réseau-là, je me dirais, bon, ben écoute, on est mal pris pour passer sur leur...
Vous parlez du gazoduc Coastal GasLink.
Oui, le gazoduc, mais actuellement, il y a 20 communautés qui l'ont prouvé, puis il y a 5 héréditaires, mais les 19 communautés, les héréditaires, à ma connaissance, se sont pas opposés, que 5 personnes bloquent le projet.
Ouais.
Puis les grands perdants, selon moi, au bout de la ligne, ce serait les Autochtones aussi, parce que ce matin, dans la presse, on parlait de salaire de 150 000 par année, que beaucoup d'Autochtones travaillaient sur ces projets-là.
Ouais.
Que si on arrête ça, peut-être les communautés, les 19 communautés qui ont voté pour, vont peut-être dire, écoute, on vient de perdre un gros gaille-pain pour notre groupe.
Puis je vous remercie de ramener ça sur le fond, qui est, dans le fond, à la base, c'est devenu une crise autochtone, mais à la base, c'est un problème environnemental. C'est une question environnementale, là. C'est ça là, qui sous-tend tout ça. Là. Merci beaucoup de votre intervention. Je voulais qu'on vienne un peu, parce que quelqu'un nous a interpellé tout à l'heure sur le fait qu'on parle de territoire, mais que dans le fond, c'est pas leur territoire, parce qu'il y a longtemps, il y a belle lurette qu'on s'est entendu pour dire que c'était plus des terres autochtones, mais bien des terres québécoises. Pierre Trudel, vous qui avez étudié tous ces traités, il y a un auditeur qui rappelait le fait, par exemple, que quand la mairesse de Montréal dit « territoire non cédé, Montréal », c'est sûr que ça nous fait tous réagir, parce qu'on on a l'image, on se dit « oh mon Dieu, dans quoi qu'on s'embarque si on se met à rouvrir la discussion sur qui appartient à quoi appartient à qui ». Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Pierre?
Ah, moi, pour le moment, écoutez, si je répète ce que... Il y a la démesure, on a pris le pont, on peut prendre l'île de Montréal. Là.
Ouais.
L'enjeu, c'est pas ça. Là. Puis on s'en va dans toutes les directions. L'eau potable, les femmes assassinées, qu'est-ce qui était là en 1534.
Exact.
Moi, M. Blanchet a une position qui devrait être celle de notre premier ministre. Et je le répète, il est responsable ultimement des relations entre la grosse nation québécoise et la petite nation Mohawk, nos voisins d'à côté. Et il y a un devoir de protocole, puis de pas nuire, puis porter atteinte à ces relations-là. Et ce qu'il a dit, là, porte atteinte à ça. Monsieur Justin Picard, chef de l'Assemblée pour la Nation, à moyen terme, il proposait quelque chose de bien concret, là, un tribunal indépendant, justement, pour cette nouvelle obligation-là de consultation préalable, libre et éclairée concernant le développement du territoire.
Ouais.
Et ce tribunal indépendant-là, il pourrait être mis en place assez rapidement. Là.
Et je pense que c'est une idée très sage qui doit faire son chemin. Et Ghislain Picard est très nuancé dans ses propos. Je pense que c'est un Autochtone ici qui a toute la crédibilité nécessaire. Et je pense qu'il faut écouter. Merci de le rappeler, Pierre Trudel. Et vous parlez d'Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois. Encore ce matin sur Twitter, là, il condamnait les propos de quelqu'un là, qui disait « Désir de paix, qui ça, les Amérindiens? Pourquoi on se met toujours à genoux devant eux? C'est juste une gang de sans-cœur qui travaille pas puis qui vit sur nos millions. » Et Yves-François Blanchet a dit « Voici un exemple de propos racistes qui mène directement à être bloqué de mon fil Twitter. Il trouve ça honteux. » Et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête aujourd'hui, au moment où il va y avoir des conversations qui, j'espère, vont être éclairées entre les chefs héréditaires et le gouvernement de Justin Trudeau. Merci beaucoup, Pierre Trudel, chargé de cours à l'UQAM.
Il faut pas exagérer nos différences, mais parler de ce qu'on a en commun, comme le chef Joe Norton a dit, qui fait aussi une lutte contre les changements climatiques.
Voilà. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci beaucoup Guy Ryan.
Merci, bonne journée.
Je sens qu'on
va
se reparler bientôt. Guy Ryan, bien sûr, qui est ancien inspecteur au crime organisé du SPVM. On s'arrête ici tout de suite après les nouvelles. On se retrouve, bien sûr. On va entre autres parler du gros lot de 70 millions. Restez là tout le monde. Ah oui, ben...